tous les dimanches, 14h-15h.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet sur Europe 1.
Bonjour. Michael Lonsdale est singulier en étant paisiblement lui-même. Jamais d'éclat, mais du mystère. Il est à la fois intense et détaché, abordant le drame et la fantaisie avec le même visage paisible et pourtant plein d'énigmes. C'est donc un immense acteur et un homme de foi que je reçois aujourd'hui pour sa mise en scène des Confessions de Sœur Emmanuelle au Petit Théâtre Iberto à Paris avec la prodigieuse Françoise Turiès dans le rôle-titre jusqu'au 28 février. Bonjour Michael Lonsdale.
Eh bien bonjour.
Michael Lonsdale, en préparant cette émission, je m'interrogeais sur vous. Je me disais, mais finalement, est-ce que depuis le film de Xavier Beauvois, Des hommes et des dieux, vous n'êtes pas en réalité le frère Luc, ce moine de Tibérine, qui jouerait le rôle de Malcueil d'Ondal?
Ah ben voilà, alors là ça devient grave. On ne sait plus qui on est finalement.
C'est un peu ça la comédie.
Oui, bien sûr, j'étais tellement heureux d'incarner ce merveilleux prêtre. Enfin, non, il n'était pas prêtre, il était frère convert. Vous savez, les frères convers dans les monastères s'occupent de tout.
De l'intendance.
L'intendance, oui.
Mais vous, Michael Lonsdale, aujourd'hui vous êtes un comédien ou un pèlerin?
Les deux. Je suis un comédien en pèlerinage et un pèlerin qui joue la comédie.
Alors, dans le milieu plutôt libertaire du cinéma et du théâtre, où l'athéisme d'ailleurs est de bon ton, il est rare d'entendre un acteur parler si ouvertement de sa foi. Ça ne vous a pas porté préjudice par le passé?
Oh, dans le passé, oui, il y a une vingtaine d'années, avant que le mur de Berlin ne tombe, j'essayais un peu de parler de Dieu, et puis on m'envoyait paître sur les roses. Puis après la chute du mur, quand les esprits ont compris que ce qui se passait là-bas en Russie, c'était pas ça. Vous savez, les artistes sont toujours à la recherche de quelque chose, d'une vérité, d'être compris et d'être aimé. Et ils sont prophètes, des fois ils sont médiums.
Vous aimez bien d'ailleurs dire que les artistes sont les témoins de l'invisible.
Ah oui, c'est une phrase du père Couturier qui avait écrit ça, j'ai retenu, oui. Oui, oui, on est chargé de témoigner de ce qui ne se voit pas, mais qui existe tellement fort, oui.
Alors Michel Serrault, qui était très croyant, refusait de parler de sa foi. Vous, Michael Lonsdale, vous la vivez de manière très active auprès du mouvement du renouveau charismatique. Vous n'avez jamais songé à entrer dans les ordres?
Non, ça m'a effleuré, mais pas plus. Oui, il y a 30 ou 40 ans. Je crois que j'avais une préoccupation d'artiste avant tout.
Ouais.
Oui.
Mais aujourd'hui, vous êtes en fait presque un évangélisateur, Michael Lonsdale, puisque vous prolongez l'incarnation et puis la parole de frère Luc, le moine de Tibérine que vous avez interprété dans Des hommes et des dieux, en lisant ses écrits dans les églises. Donc, en dehors des plateaux de cinéma, vous passez votre vie à porter la bonne parole?
Ben j'essaye, oui, c'est une façon d'évangéliser. Alors je fais ça avec un prêtre organiste, par exemple, et le chemin de croix de Claudel, qui est une merveille qu'on fait principalement pendant le carême. C'est superbe, la langue est magnifique. Et puis je travaille avec Jubiléo, avec Laurence Bénédicte, ou là c'est un travail d'amis. Et alors là nous allons dans les endroits où on veut porter la parole. C'est-à-dire laisser entendre les choses par des gens pauvres. Alors on a fait une chose à la gare Saint-Lazare, par exemple.
Ouais.
Et on a demandé au directeur si on pouvait faire un concert sur la création de Haydn.
Ouais.
Et il a dit oui. Alors on l'a fait dans la salle des Pas Perdus. Alors donc il y avait les voyageurs qui passaient derrière le public pour entrer et sortir dans la gare. Il y avait quelques poivreaux là un petit peu allumés. Et alors on commence, et puis un premier mouvement, et après le premier mouvement, il y a un beau silence, et tout d'un coup, un de ces messieurs se dresse comme ça, un peu rouge, et dit « Merde alors, qu'est-ce que c'est beau
!» Magnifique. C'était presque un happening religieux.
Mais oui, alors les gens rient bien sûr, parce que c'est parti comme ça. Hein.
En tout cas, Michael Lonsdale, le milieu que vous avez choisi pour vous exprimer tout au long de votre vie, c'est un milieu profane, considéré par beaucoup d'ailleurs comme un milieu de perdition. Pourquoi avez-vous choisi de devenir acteur?
Ben, c'était un besoin impératif en moi. Parce que très jeune, j'ai pu aller au cinéma, pendant la guerre au Maroc. Évidemment, je voyais les films pas toujours en bon état, mais chaque fois que j'y allais, j'étais complètement saisi par ça. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Et quand les Alliés ont débarqué en 1942, qu'on a libéré mon père qui était un prisonnier anglais du gouvernement de Vichy, il y avait à Casablanca des séances de cinéma ouvertes aux soldats et aux officiers, enfin, qui voulaient aller au cinéma. Mmh. Et comme mes parents avaient des amis officiers, et qu'ils ont vu que j'aimais le cinéma, ils ont dit « si votre fils veut aller au cinéma, il peut venir hein. ». Alors je me suis tapé une série. J'allais pas à l'école, hein. J'allais au cinéma, ce qui est bien mieux. Et j'étais bouleversé par ces films américains, les grands films de John Ford, tout ça. Ouais,
de Cukor.
Les raisons de la colère, ouais. j'ai jamais oublié. Alors dans ma petite tête, quand même, je dis oh, qu'est-ce que j'aimerais faire comme eux. Mais il y avait pas, j'étais trop jeune, et puis là-bas il y avait pas d'école de rien au Maroc. Et il a fallu attendre ma venue en France après la guerre, en 1947, pour enfin pouvoir vivre de l'art ici à Paris. Et mais je n'osais pas aller dans un atelier, ni dans, je faisais de la peinture aussi, oui. Je n'osais rien. Hein. Mais un jour, il y a eu un article dans un journal qui s'appelait « Art ». Voulez-vous savoir si vous êtes comédien ? Moi, j'ai mordu à l'hameçon. Hein. Alors, je suis parti dans un cours qui était assez bidon. Parce que le premier jour, le professeur nous dit, voilà, on va improviser, vous êtes dans un camp de concentration et vous allez à la recherche de votre enfant mort. Bon, un thème joyeux, hein. Alors, il y a une jeune femme qui était là, qui a dit, moi, je veux bien essayer. Alors, elle a commencé à errer comme ça, avec les yeux un peu hagards, et puis tout d'un coup, elle est tombée par terre, elle s'est mise à hurler, non, c'était pas comme ça. Crise de nerfs, oh là là, c'est ça le théâtre, moi je...
Vous avez pris la fuite.
J'arrête.
Et on racontera.
On donne pas un thème comme ça à des débutants, il était malade,
évidemment.
Bonne. Alors je suis parti ailleurs et j'ai demandé, je me convertissais en même temps, j'ai demandé à l'aumônier des artistes, le père Carré, merveilleux bonhomme, qui m'a dit « Allez chez Madame Balachova et vous serez content ». Et ça a été comme ça. Hein.
Exactement, et ça on va l'évoquer. Mais tout de même, les passerelles entre la foi qui est la vôtre depuis toujours et puis le métier d'acteur, Michael Lonsdale, il y a de la coquetterie chez le comédien qui se nourrit des applaudissements. L'ego, il est souvent surdimensionné chez les artistes. Donc on est assez loin de la parole chrétienne.
Non, parce que là, les gens qui applaudissent, c'est une reconnaissance. Ils sont contents. Et ils vous applaudissent parce que ça leur a plu et que vous leur avez apporté quelque chose. C'est pas un péché, je veux dire. Vous savez, j'ai toujours aimé les enfants qui avaient des parents qui leur racontaient une histoire avant de dormir. C'est capital pour un enfant. Il a besoin de ça, même s'il n'écoute pas longtemps. Il a besoin d'un morceau de merveille, de merveilleux, de mystère, de quelque chose qui le fascine. Et là, il s'endort. Mais alors, cette chose reste, vous savez, dans les gènes de celui qui va grandir. Plus tard, j'ai demandé souvent aux gens, pourquoi vous allez au théâtre? Pourquoi vous allez au cinéma? Oh, pour changer les idées. Ah bon? Non, moi je crois qu'il y a autre chose. Vous avez besoin qu'on vous raconte une histoire, non? Ah bah oui, j'aime bien les films et les histoires. Ils vont voir quelque chose qui les aide à vivre. Alors, arrivé à Paris, une amie de ma mère elle m'a dit, va à l'atelier d'art sacré, place Fustenberg, dans l'atelier de Delacroix. Endroit mythique, bien sûr.
Oui.
Et tu verras des prêtres et tu verras des artistes. Et là, je suis allé, je suis tombé le premier jour sur un père dominicain qui a parlé de l'artiste et puis le croyant.
Oui.
Et tout ce qu'il a dit, je buvais du lait, c'était ce que je voulais entendre. Alors, à la fin, moi qui étais timide, j'ai osé m'approcher pour lui dire « Pardon, monsieur, je ne savais pas qu'il fallait l'appeler mon père. » Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Voilà, j'aurais voulu vous parler parce que ce que vous avez dit, ça m'a bien plu. « Ah oui, je suis navré, je ne peux pas, j'ai un rendez-vous, mais je te donne mon téléphone au couvent Saint-Jacques, appelle-moi dès que tu peux. » Alors, je n'ai pas manqué de le faire, bien sûr, et je suis allé là-bas au couvent, j'ai été reçu par le père Régamé. Grand connaisseur d'art, magnifique, homme très cultivé. Alors, dans sa cellule, comme on dit, sa chambre, alors, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Alors, je commence à bafouiller. Ben, je voudrais faire quelque chose de beau, de vrai, de pur. De... Alors, au bout de 20 minutes, il me fait une petite pause et il me dit, ben, je pense que c'est Dieu que tu cherches. Alors, ça m'est tombé comme ça. Et ben, il m'a amené au baptême. Je n'avais pas été baptisé petit.
À 22 ans.
Ouais.
Mais alors, il n'y a sans doute pas de hasard, Michael Lonsdale, si vous êtes le comédien qui a joué le plus de rôles d'ecclésiastique dans sa carrière, oui. N'est-ce pas? Du curé de campagne au pape, vous avez interprété des moines, des cardinaux, l'ange Gabriel et même la voix de Dieu. C'est vous qui êtes allé chercher ces rôles?
Non.
Ou bien, j'ai envie de dire, c'est la main de Dieu qui vous les a distribués?
Oh, je crois, parce que la première fois que j'ai joué un peu avec des amateurs, une soirée de bienfaisance, c'était une pièce d'Oscar Wilde, Il importe d'être constant. Et je jouais le pasteur. Bon, avec plaisir. Alors après, avec Louis Malle, oui, et puis je suis monté très haut, hein, jusqu'à la voix de Dieu, que je fais encore d'ailleurs avec Job, oui. Et voilà, j'ai pas fait attention, hein. Mais alors il faut être prudent, parce que dans ce métier, on aime bien vous classer. Alors quand il y a un religieux dans un film, bah oui, Lonsdale, il fait ça très bien. Alors maintenant, je refuse. Enfin, à moins que ce soit extraordinaire.
On retrouve immédiatement Michael Lonsdale cet après-midi, mon invité.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Isabelle Morizet sur Europe 1.
Mesdames, messieurs, ici le superviseur de votre train IDTGV. Pour la première fois en décembre, l'été 2015 va partir. Prenez garde à l'ouverture des ventes.
En ce moment, ouverture exceptionnelle des ventes IDTGV pour vos vacances de printemps et même d'été. Réservez dès maintenant un billet à partir de 19 euros. Voir conditions de l'offre sur idtgv.com ou sur l'appli mobile IDTGV.
Je te le dis franchement, Noël, le sapin, les cadeaux, ça m'embête.
Ah bon? Mais je pensais t'offrir un cadeau raffiné, comme un Calvados Permagloire.
Oh mon trésor, pour moi c'est le plus français des spiritueux, alors je veux bien faire une exception.
Alors, sur glace pour l'apéritif ou en cocktail?
Le Calvados Permagloire est tellement exceptionnel, pour moi ce sera juste nature.
Calvados Permagloire, une tradition normande depuis 1821, devenue un vrai luxe.
Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Benoît Brisefer est un petit garçon comme tous les petits garçons de son âge, à une différence près.
C'est fort, très très fort.
Mais il faut surtout pas que je m'enrhume, sinon je perds toute ma force.
Ce Noël, les enfants ont leur nouveau héros.
Monsieur Poilonnet prépare un sale coup.
C'est leur certaine taxi rouge, ils vont foncer dedans.
Découvrez Benoît Brisefer, les taxis rouges, le 17 décembre au cinéma.
Messieurs, connaissez-vous ce fameux dicton? Un baiser pour dire je t'aime, un collier en or pour dire à la folie. Moi je dis ça, je dis rien. Pour lui faire vraiment plaisir, offrez-lui un bijou.
Qu'attendez-vous pour entrer chez votre bijoutier?
Pour Noël, offrez du sport. Jusqu'au 24 décembre chez Intersport, les suites à capuche hommes, le coq sportif, Deluxe et Jack & Jones sont à 29,99€. Oui, 29,99€ le suite au choix.
Intersport, le sport commence ici!
Offre valable dans la limite des stocks disponibles, voire conditions et listes des magasins participants sur intersport.fr.
La famille Martin est une famille comme les autres. Jusqu'à ce soir où ils vont ouvrir leur cadeau de Noël et où leur mutation va commencer, ils seront plus forts, plus rapides. Ils vont devenir les Super Martins.
À Noël, offrez le super pouvoir Open. Internet, télé, téléphone plus deux forfaits mobiles à 33,98€ par mois pendant un an au lieu de 43,98€.
Orange.
Engagement 12 mois en métropole jusqu'au 4 février pour les nouveaux clients Orange Internet ou mobile avec portabilité du numéro et renvoi des coupons de remboursement. Livebox en location 3€ par mois. Offre ADSL, VDSL non disponible dans certaines zones éligibles à la fibre Orange. Conditions en boutique Orange et sur orange.fr.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Isabelle Morizet sur Europe 1.
Aucun homme de théâtre n'était aussi légitime que celui qui incarna le frère Luc dans Des Hommes et des Dieux pour mettre en scène les confessions de Sœur Emmanuel au Théâtre du Petit Héberto à Paris jusqu'au 28 février. C'est donc Michael Lonsdale, toujours sans doute un peu le frère Luc, que je reçois cet après-midi pour ce spectacle. Michael Lonsdale, elle est très singulière votre enfance. Votre père était un officier de l'armée britannique pour lequel votre maman a quitté son époux. Vous êtes donc ce qu'on appelait à l'époque un enfant adultérin. Pour votre grand-père maternel, vous étiez un déshonneur qu'il fallait absolument cacher.
Et oui, parce que lui-même était un enfant illégitime dont il avait beaucoup souffert dans sa vie.
Mais alors il aurait dû comprendre.
Oh non, pas du tout. Il me regardait de travers. Non, parce que maman, évidemment, était partie avec l'homme qui est devenu mon père. Et évidemment, elle dépendait financièrement de lui. Il était très riche, mon grand-père. Mais maman ne travaillait pas. Alors évidemment, maman voulait le cacher, elle ne voulait pas lui dire. Mais son beau-frère, elle a dit, moi je vais aller voir votre père et lui dire. Alors évidemment, le grand-père a fait une tête longue comme ça. Et il a dit, bon, ben, je vais leur donner des sous, mais il faudra qu'ils s'exilent en Australie ou en Canada pour cacher la honte. C'était de moi la honte.
Mon Dieu.
Alors donc...
Vous n'êtes pas allé jusqu'en Australie, non. Mais il paraît que vous avez grandi sur l'île de Jersey, puis
oui.
À Londres, jusqu'à l'âge de 9 ans.
Oui, parce que, alors, ma grand-mère, Suzanne, que je n'ai pas connue, parce qu'on n'osait pas me montrer à la famille française, est allée à genoux, paraît-il, supplier Gabriel de ne pas les envoyer si loin. Alors il était quand même pas mal, parce qu'il a accepté qu'on aille à l'île de Jersey. Non, mais c'est rocambolesque.
C'est rocambolesque, mais tout ça a fait de vous un enfant très solitaire.
Alors, jusqu'à 4 ans, Jersey, oui, avec mon gros chien, là, que j'aimais tellement, c'était mon jouet. Moi, j'étais sa balle, oui. Il me poussait avec son museau, comme ça, et moi, c'était mon cheval. Bon, puis là, on est parti pour Londres, parce que mon père voulait travailler là-bas. Et puis, on est repassé voir Baroud. L'année d'après, ben, il était mort. Il s'est laissé mourir de faim. Alors, j'ai eu un chagrin, parce que c'était mon grand copain. Et voilà, c'est les petites douleurs de la vie, on apprend des choses comme ça.
Et puis en 1939, date hautement symbolique, votre père, reconverti dans le négoce d'engrais, décide de partir pour le Maroc. Alors, Michael Lonsdale, vous avez pris le train jusqu'à Marseille, le bateau pour Tanger, oui. Et vous êtes arrivé à Casablanca le 15 août 1939. Or, le 2 septembre, la Deuxième Guerre mondiale était déclarée. Vous étiez parti pour 6 mois, vous êtes resté 10 ans.
Voilà. Et oui, parce que mon père avait un job là-bas, alors il a travaillé jusqu'à l'invasion de la France par les Allemands. Et là, le contrat était fini. Mais impossible de sortir du Maroc. Il n'y avait pas de bateau qui allait de Casablanca à Londres.
Oui.
Pas d'avion, rien. Donc, on est coincé là-bas. Alors, pour survivre, mon père a donné des leçons d'anglais. Voilà, donc on est resté là-bas 10 ans.
Mais comment a-t-on organisé la vie de l'enfant que vous étiez ?
J'allais... dans un cours privé, le cours de mère, mais finalement j'étais tellement nul qu'on ne m'a pas gardé. Après, j'allais chez une vieille dame charmante qui nous faisait du chocolat à l'heure du goûter. Et puis on sonne à la porte un jour et elle me dit, il y a un monsieur qui veut te parler. Alors je vais à la porte et j'ai dit, voilà mon petit, il faut que tu viennes voir ta maman parce qu'on vient d'arrêter ton père. Oui, en tant qu'anglais. Et vous savez, le Maroc c'est un protectorat.
Oui.
A reçu des ordres de Vichy comme quoi il fallait interner tous les Anglais. Alors on l'a accompagné au commissariat, en sanglots, tout ça, maman et moi, on ne savait plus quoi penser. Il est resté là-bas 6 mois, ensuite on a obtenu l'autorisation d'aller dans un petit village arabe, près de Casablanca, en condition de signer tous les matins au commissariat. Voilà, alors on a passé là 2 ans, jusqu'à l'arrivée des Alliés en 1942. Alors là, ça a été la fête.
Mais à quoi ressemblait Casablanca et ses environs en 1939 ? Vous avez découvert à ce moment-là, Michael Lonsdale, les mosquées, le ramadan, le soleil brûlant après la brume londonienne ?
Ben oui, c'était 45 à Londres, dans le petit village marocain, là. On avait une maison dans le quartier arabe.
Ouais.
Alors mes copains, c'était les copines, les petites filles arabes et les garçons, quoi. Tout ça se mélangeait. Donc j'ai été élevé avec ces gens-là.
Vous l'avez dit à l'instant, le Maroc était un protectorat français. Quand le roi Mohamed V a reçu une lettre de Vichy lui ordonnant de faire porter l'étoile jaune aux juifs marocains, il a eu une réponse qui est passée à la postérité.
Oui, magnifique. C'est-à-dire, non, le message de Vichy est allé chez le résident d'abord.
D'abord.
En lui disant, voilà, nous vous demandons de faire porter l'étoile juive à tous les juifs du Maroc. Alors il a appelé tout de suite Sa Majesté, qui l'a reçu immédiatement. Et bouleversé, il arrive en disant « voilà ce qu'on me demande ». Et le roi lui répond « si vous faites ça, je serai le premier à la porter, moi et ma famille ». Et ça n'a pas eu lieu. Il a dit « les Juifs sont des Marocains et on n'a pas le droit de faire ça ».
Alors vous nous avez raconté tout à l'heure comment Hollywood était venu vous cueillir au Maroc en pleine guerre lorsque l'armée américaine a débarqué en 1942. Mais lorsque, en 1948, vous êtes rentré à Paris, il paraît, Michael Lonsdale, que la famille de votre mère était très inquiète de l'inculture qui était la vôtre. En fait,
oui.
Vous étiez un cancre avec des rêves plein la tête.
Exactement, mais j'étais pas... Non, on a tellement été bousculé dans les écoles que j'ai jamais pu faire d'études suivies. Puis j'étais pas doué, ça il faut dire. Pour les mathématiques, c'était un cauchemar pour moi.
Mais les livres ?
Mais les livres, si. Alors ça, je lisais La vie des castors, je lisais Félix le chat dans les bandes dessinées, mais il n'y avait pas beaucoup de livres pendant la guerre au Maroc. Et c'était surtout le cinéma qui m'intéressait. Il n'y avait pas d'école là-bas, et puis mais j'étais trop jeune encore. Mais alors j'ai fait de la radio après. On était une fois libérés, on s'est installé. Mon père est parti faire la guerre. Et j'ai vécu avec maman à Rabat. Et là, un copain me dit, mais c'est à la radio, là, des émissions pour les enfants, ils cherchent des jeunes, viens. Alors je suis allé, bien sûr, excité comme une puce. Alors on chantait toutes sortes de chants, et puis on jouait des pièces. Et j'ai eu mon
alors
premier...
Alors c'est là que vous êtes exprimé la première fois, en fait.
Ah oui, mon premier rôle, ça a été dans Blanche-Neige et les Sept Nains. Ça a été Hatchoum. Je m'en souviendrai toujours de ça. Puis on passait après 2 heures dans l'auditorium à s'amuser. Je ratais pas ça pour un empire.
Mais il a fallu quitter le Maroc pour rejoindre Paris. On fait une très très courte pause. Et puis on reprend ce récit extraordinaire avec Michael Lonsdale qui accepte d'agiter sa mémoire pour nous cet après-midi. A tout de suite.
Valmorel, sa nature majestueuse et son enneigement exceptionnel accueillent Europe 1. Jean-Marc Morandini.
Je vous retrouve demain dès 9h pour un grand direct spécial à la montagne avec toute l'équipe et vos rendez-vous habituels, médias, actu et santé, en direct et en public à Valmorel.
Franck Ferrand.
Quant à moi, c'est à 14h que je vous retrouve au cœur de Valmorel pour une émission consacrée aux origines du ski et des stations de sport d'hiver.
Europe 1, partenaire de la rentrée des neiges de Valmorel. Qu'est-ce qui est rouge et blanc, a plus de 160 ans et pourrait vous faire profiter de cadeaux avant Noël? Les biscuits Lu, bien sûr. En ce moment, bénéficiez de 50% remboursé sur toute la gamme Lu des 3 paquets Lu achetés.
Remis sous forme de remboursement différé par virement bancaire. Opération valable pour l'achat simultané d'au moins 3 produits Lu du 10 au 17 décembre 2014. Une participation par foyer dans la limite de 25€ d'achat en produits Lu. Modalité complète sur luleschampdespossibles.fr.
Pour votre santé, évitez de grignoter. Lu, ouvrons le champ des possibles.
Galtier dans le magasin Sport 2000 d'Hervé Desplanques à Fréville-Escarbotin.
Si je suis sélectionneur, même à Noël, je ne ferai aucun cadeau.
Au contraire, prenez exemple sur votre sélectionneur Sport 2000. Jusqu'au 24 décembre, nous vous proposons une sélection exclusive, jusqu'à moins 40% sur les plus grandes marques.
Sport 2000, remarque citoyen.
C'est des magasins participants et conditions sur sport2000.fr.
La Poste. Ça, c'est Noël dans les contes de fées. Ça, c'est Noël dans la vraie vie, quand on réalise que Noël c'est dans 2 jours et qu'on n'a pas fini les cadeaux. Et c'est là...
Qu'est-ce qui lui ferait plaisir à votre petit Lucas ?
Que je me suis dit que le Père Noël existait. Il était dans mon bureau de poste avec des smartphones, des cartes cadeaux, des emballages festifs. C'était...
À la Poste, pour les fêtes, c'est la fête. Avec plein d'idées originales pour faire des cadeaux, des emballages festifs pour les envoyer et des forfaits La Poste Mobile. La Poste, développons la confiance.
Avec ce froid, je te raconte pas la facture de chauffage qu'on va se payer.
Ah, pas moi. J'ai fait des travaux de rénovation énergétique avec un professionnel RGE. Du coup, pas de mauvaise surprise.
RGE ?
RGE, c'est la garantie d'engager des pros compétents et qualifiés pour tes travaux de rénovation énergétique.
Ah bon ?
Oui, et c'est aussi une des conditions pour bénéficier des aides de l'État.
Oh, mais ça me réchauffe le cœur ce que tu me dis là.
Trouvez un professionnel RGE sur rénovationinfoservice.gouv.fr. Ceci est un message du ministère de l'écologie, du ministère du logement et de l'ADEME.
La hotte de Noël. Europe 1.
Bien sûr, jusqu'au 25 décembre, la hotte de Noël Europe 1 est de retour avec des cadeaux absolument magnifiques à gagner. Mais Anissa, qu'avons-nous en jeu dans l'émission ?
Eh bien aujourd'hui, Isabelle, nous vous proposons de jouer pour tenter de gagner un iPhone 6, un cadeau exceptionnel pour faire ou se faire plaisir à l'approche de Noël. C'est un cadeau d'une valeur de 700€. Et avec l'iPhone, on rajoute un assortiment de chocolat Jeff de Bruges. Pour vous inscrire au tirage au sort, vous envoyez le mot de passe Europe, E-U-R-O-P-E, par SMS au 739 21 65 centimes plus coût d'un SMS, ou alors vous appelez dès maintenant le 39 21 34 centimes d'euros la minute. Le nom du gagnant ou de la gagnante vous sera communiqué à la fin de l'émission Europe 1 Sport aux alentours de 23h. Bonne chance à tous.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Isabelle Morizet sur Europe 1.
Michael Lonsdale, je continue de dérouler la pelote de laine. En 1948, vous êtes arrivé à Paris avec votre mère pour vous installer aux Invalides dans un appartement dans lequel, 66 ans plus tard, vous vivez encore.
Ah oui, non, c'était un peu plus tard, cet appartement. On s'est d'abord installé dans le midi de la France et sur la Croisette, on a trouvé un appartement où on est resté pendant 2 ans.
Très bien, donc vous êtes arrivé en 1950 à Paris.
Voilà. À peu près, oui.
Mais alors cet appartement, vous l'occupez depuis 1950. Vous n'avez jamais eu la tentation, en 64 ans, de choisir un lieu qui porte véritablement votre empreinte? Vous êtes chez vous.
Je suis très bien, là, sur cœur de Paris. J'ai des autobus à la porte de mon immeuble, deux métros, et puis pour marcher, je vais à pied partout là-bas.
C'est bien dans cet appartement, dont les fenêtres donnent sur la tour Eiffel, que Truffaut a tourné avec vous une scène de baiser volé.
Oui, en effet, il a passé la semaine là, parce qu'il cherchait un appartement qui donne sur la tour Eiffel. Alors j'ai dit, moi j'en ai un. Alors il était content, il n'a pas eu à chercher beaucoup, et on s'est installé. Alors j'ai rempli le frigidaire. Et pour toute l'équipe, j'ai dit, voilà, servez-vous, on va pique-niquer, buvez ce que vous voulez, grignotez ce que vous voulez. Ça a été des journées magnifiques, oui.
Michael Lansdale, je reprends le récit de votre enfance. Est-ce qu'on peut dire finalement que c'est votre oncle, Marcel Arlan, qui à l'époque était un des auteurs fétiches de Gallimard, et dont le meilleur ami d'ailleurs était André Gide, est-ce que c'est votre oncle qui a fait votre éducation ?
Oui, parce que moi j'étais très inculte au Maroc, il n'y avait pas grand-chose sur l'art, sauf cette dame peintre, celle qui m'a envoyé à l'atelier de Delacroix. Mais oui, alors Marcel, bien sûr, devant mon inculture, m'a aidé à dire, allez, il faut que tu lises Stendhal, il faut que tu lises Chateaubriand, enfin les grands classiques, quoi. Et il était très ami des peintres, c'est lui qui m'a emmené chez Bazaine, chez Manessier, chez Atlan. Alors je vivais, je voyais, je goûtais, j'aimais tellement cette atmosphère comme ça, de grands peintres, bons, gentils. Et alors ça m'a encouragé à peindre parce que j'en avais besoin aussi de peindre.
Mais comment vous viviez dans le Paris bouillonnant des années 50? Puisque, par exemple, à l'âge de 22 ans, vous étiez très en quête de spiritualité, vous avez décidé de vous faire baptiser, vous étiez plus en fait en quête de spiritualité plutôt que en quête de, allez, parler d'existentialisme avec les jeunes de votre âge dans les caves de Saint-Germain-des-Prés?
Non, parce que avec Tania Balachova, vous savez, elle était de la famille de Dulin, de Jouvet, de ce théâtre très intérieur comme ça. Alors donc, il n'y avait pas de rigolo dans vos cours. Il y avait Delphine Seyrig, oui, il y avait Laurent Terzieff, il y avait Antoine Vitesse, Trintignant, tout ça, c'était les copains. Donc on était très sérieux, on aimait Tchekhov, et Tania, quand elle pouvait, employait ses élèves dans ses spectacles, oui. Non, c'était magnifique. Alors, je lui dois tout à Tania Balachova. Elle m'a ouvert parce que j'étais bloqué, quand même, timide, hein. Je n'osais pas m'exprimer et tout ça. Elle m'a sorti de mes gonds, elle m'a fait jouer la force et la violence en disant « ça va vous servir un jour dans ce métier, il faut savoir tout faire, vous savez, du plus gentil au plus méchant
». Au cours de l'hiver 1954, Michael Lansdale, il y a eu le fameux appel de l'abbé Pierre. Vous l'avez rencontré, l'abbé Pierre, cet hiver-là?
Non, pas cet hiver-là.
Pas cet hiver-là?
Non, des années après, oui, quand on a monté un spectacle avec lui sur la fondation de l'Emmaüs, oui. Je ne l'ai pas quitté pendant 2 mois, hein, tous les jours, on était ensemble.
Pendant 2 mois?
Pour monter ce spectacle, oui. Il nous a suivis, on jouait dans tous les zéniths de France, hein, 5000 personnes.
Mais alors, quel homme inattendu, méconnu, avez-vous découvert à cette période-là de votre vie?
D'une simplicité, d'une bonne générosité, simple, 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 pas d'histoire, pas de complications intellectuelles ou de problèmes, non. Il a assisté à toute la mise en scène avec Daniel Facerias, et voilà, alors ça s'est bien passé. Il se montrait, lui, au début de la soirée, la salle debout, l'acclamait déjà et il revenait à la fin pour saluer encore. Alors là, c'est encore plus fort. On a vécu des moments comme ça quand il nous a amenés dans sa maison qui n'est plus la sienne, mais il y avait encore sa famille dans le sud de Lyon. Et on a fait la messe dans le salon. Et il était habillé avec des vieilles dentelles, tout à fait comme au début du siècle. Et après, il nous a fait descendre dans la cave pour voir tous les trophées qu'il avait reçus du monde entier, des vases, des pots, des poupées, dans des vitrines, comme ça, d'un vrai musée Guimet. Et la bonté de cet homme, oui, dans son regard, c'était formidable.
On se dit des choses intenses cet après-midi, ouais, avec Michael Lansdale. On se retrouve tout de suite.
Heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together dancing cheek to cheek.
Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek.
Oh, I love to climb a mountain and reach the highest peak.
Me too.
But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek.
And I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek.
Dance with me, I want my arm about you. The charm about you will carry me through
to heaven.
Heaven.
Yes, I'm in heaven.
I'm in heaven.
And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek. Go.
Tony Bennett et Lady Gaga, Cheek to Cheek, un album Europe 1.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Isabelle Morizet sur Europe 1.
C'est un texte hors du commun qui va faire vibrer le théâtre du Petit Héberto à Paris jusqu'au 28 février. Les confessions de Sœur Emmanuelle, aussi poignantes qu'inattendues, mises en scène par Michael Lonsdale, aujourd'hui mon invité. Alors Michael Lonsdale, vous qui affichez depuis toujours et au travers de tous vos rôles une sérénité si imperturbable qu'elle en paraît parfois énigmatique, eh bien j'ai appris que la première vraie colère de votre vie, et peut-être la seule d'ailleurs, vous l'avez vécue dans un cours de théâtre dont on menaçait de vous renvoyer si vous n'étiez pas capable de jouer la fureur. Faut absolument nous raconter.
C'était dans mon cours avec Dania Balachova, parce que
oui.
Moi je passais Feydeau, je travaillais Tchekhov, enfin des choses belles, mais comiques, j'aimais beaucoup. Puis un jour elle me dit, Michael, j'aimerais bien vous voir dans quelque chose de plus fort, enfin de plus dramatique. Appelez-moi la première scène du Misanthrope. Alceste qui bougonne dans son coin parce que Célimène l'a envoyé sur les roses. Et son ami Philinte arrive, la bouche en cul de poule. Mais qu'est-ce donc avez-vous ? Laissez-moi, vous dis-je. Mais encore, dites-moi, laissez-moi, vous dis-je. Alors je joue ça et Tania me dit, oui, c'est gentil, mais il faudrait vous énerver un peu. Parce qu'il est contrarié, cet homme. Bon, moi j'essaie, ce n'est pas grand-chose. Alors, bon, moi, je vous dirais qu'il est plus que contrarié, il est très fâché. Ouh là là, je commençais moi à transpirer, je me dis, ça y est, qu'est-ce qu'on va faire ? Parce que la violence, j'avais horreur de ça.
Ouais.
Alors ça atteignait des sommets, ça finit par dire, voilà, alors il est furieux, il est fou de rage. Et moi je commençais à blanchir. Et, alors à la fin, elle a pris les grands moyens.
Ouais.
Elle m'a dit ce qu'il fallait faire, elle m'a menacé, elle m'a dit, si vous ne me montrez pas que vous pouvez être violent, je ne peux pas vous garder dans le cours, ça sert à rien, vous n'êtes pas comédien.
Et qu'avez-vous fait ?
Alors, Philinte revient, la bouche en cul de poule. Qu'est-ce donc qu'avez-vous ? J'attrape une chaise en bois comme ça. Je la hisse au-dessus de ma tête et je la jette en hurlant. Laissez-moi, je vous prie ! Et la chaise se casse. Et Tania, ravie, me dit, ben voyez, vous pouvez être méchant. Mais oui, non, ne me dites rien. Merci, ça suffit comme ça. Oh là là, je suis rentré chez moi, j'avais le cœur qui battait, je me suis dit, ah non, cette comédienne, c'est pas pour moi. Et ça m'a drôlement servi, parce que j'en ai fait des rôles violents.
Vous avez tourné dans près de 150 films, certains réalisés par Marguerite Duras, Joseph Losey, Orson Welles, Claude Sautet, Louis Buñuel, Steven Spielberg, Alain René, et même d'ailleurs le très anticlérical Jean-Pierre Mocky. Mais c'est François Truffaut, Michael Lonsdale, qui vous a donné les clés, paraît-il, du plaisir de jouer devant une caméra, quand il vous a demandé d'improviser. Qu'est-ce que l'improvisation a révélé en vous ?
Ben, le jour où Tania a ouvert un cours d'improvisation, ben, j'ai commencé à voler de mes ailes.
Déjà ?
Ah oui, parce qu'on était libre de dire des tas de choses et puis de faire des trucs imprévus comme ça qui venaient. Et moi j'adorais ça, improviser. Alors, ça m'a drôlement servi, parce que dans Baiser volé, il y avait la scène où M. Tabar, marchand de chaussures, qui va chez une agence de détectives et qui dit au patron « Personne ne m'aime, je voudrais savoir pourquoi ». Alors, quand on a vu comment il parle à ses employés, on comprend vite pourquoi. Il est odieux. Alors, bon, donc il va envoyer un périscope, c'est-à-dire Jean-Pierre Léo, et c'est très comique comme film. C'est à partir de là que les offres ont été multiples. Oui, on a commencé à me proposer des tas de rôles. Je pouvais enfin choisir, parce qu'avant j'avais fait beaucoup de choses, parce que Tania m'avait dit « Vous faites tout ce qu'on vous demande, apprenez votre métier, même si c'est avec des gens pas bien, mais apprenez la caméra, apprenez tout ça. »
Mais il y a une offre très prestigieuse que vous avez refusée, et à maintes reprises. Pourquoi, Michael Lonsdale, avez-vous refusé d'entrer à la Comédie Française ?
Parce que je trouve qu'il y a des merveilleux comédiens qui jouent tout à la perfection tous ces rôles. Robert Hirsch, enfin, je sais pas, des génies. Et la joie pour moi, c'était de découvrir mon époque. C'était pas les classiques. J'aime le fouillis, l'invention, le jardin anglais, quoi.
Alors, par exemple, est-ce que vous avez aimé tourner sous la direction d'Orson Welles ? Parce que vous faites partie des très rares acteurs français qui ont tourné avec Welles. Ça se passait au début des années 60. Et oui, déjà, d'ailleurs, Orson Welles avait fait de vous un pasteur. Quels souvenirs vous en gardez ?
C'est vrai, oui. Ça a été un choc, ça, parce que je jouais avec Laurent Terzieff, une petite pièce, enfin, une pièce d'Albert Alby. Au théâtre de Lutèce, qui était un petit théâtre très modeste. Puis un soir, on me dit, il y a Anthony Perkins qui est dans la salle. Je dis, ah bon, tiens, comment ça se fait, cette grande vedette qui vient nous voir dans notre petit théâtre? Et bien, des semaines après, j'ai compris pourquoi. Et je rentre à la maison un soir, et puis j'avais une employée espagnole qui m'écrivait des mots un peu de travers. Urgente, Tilifon, mystère. Willis, urgent, avec un H.
Bon. Mister Willis.
Oui, Mister Willis. Il était un peu tard, 11h30. Je dis, bon, tant pis, si c'est urgent, j'appelle. Alors, je fais le numéro. Bonsoir, c'est Michael Lonsdale. Je voudrais parler à Monsieur Willis. Ah, thank you. I'm Orson Welles. J'ai cru que c'était une blague. Je dis, c'est pas vrai. Enfin, I want to meet you, Mr. Lonsdale. Venez me voir demain au studio de Billancourt. Je tourne la nuit. Et je vous dirai ce que je souhaite faire avec vous. Alors évidemment, j'en ai pas dormi.
Ah, j'imagine.
Le lendemain, le rideau fermé, je me tire en vitesse au studio. Et il y en est entré comme ça avec un gardien, comme ça. Puis j'entends une espèce de rire fabuleux comme ça. Et c'était lui. Il tournait des scènes extérieures dans la cour où il n'y avait pas de décor. Alors, l'assistant vient me chercher, m'amène à Orson Welles, voilà, et je me trouve devant lui. Ah, j'étais scotché. Hein. Well, Mr. Lonsdale, voilà, I'm shooting. Je tourne le procès de Kafka, et j'aimerais que vous fassiez le rôle du pasteur. Oui, on ne sait pas, c'est pas. C'est quand même une chaire qui est plutôt catholique, mais enfin, peu importe, enfin, religieux.
Ouais.
Ben, si, j'ai pas dit non. Hein. Alors, qu'on m'apporte le scénario, je vais le lire. Et puis, dans le livre, malheureusement, il y a une chose formidable que le pasteur va raconter. C'est l'histoire de l'homme au pied de la muraille qui ne peut pas entrer dans la cité. Et curieusement, il donne ce passage à un autre rôle, celui de l'avocat. Bon.
Est-ce que vous avez osé le réclamer ?
Non, je ne pouvais pas, parce que c'était Charles Laughton qui devait venir jouer le rôle de l'avocat. Et puis, il est tombé malade. Il n'a pas pu venir. Alors Welles a dit, je le fais moi. Alors arrive le jour du tournage, bien sûr, il avait transformé la gare d'Orsay en studio. Il n'y avait pas de train du tout, c'était fini. Des grandes penderies noires comme ça, et il arrive à construire une cathédrale. Enfin. Et j'arrive, voilà, répétons un petit peu, il me dit très bien. Bon, maintenant, on va faire les lumières. C'est le dernier film où il a eu tout ce qu'il voulait. Et il adorait beaucoup, beaucoup dépenser pour se venger des producteurs américains qu'il avait chassés des États-Unis. Et le petit producteur de ça, je dis petit, parce que c'était un petit bonhomme astucieux qui lui a donné une somme importante et il a gardé le double au cas où. Et en effet, ça n'a pas raté. Au bout de 10 jours de tournage, j'aimerais bien avoir une scène comme ça. No problem, no problem. Il a eu tout ce qu'il voulait. Une limousine avec un chauffeur un bar rempli de bouteilles et des cigares à profusion. Alors pendant qu'on faisait les lumières, il allait au cabaret, puis on allait le chercher quand les lumières étaient prêtes, suivi de Perkins.
Incroyable.
Et alors j'ai pensé qu'il a dû chercher ce comédien qui parlait anglais. Et on a dû, je sais pas, en parler à lui devant Perkins, et il lui a dit, allez voir au théâtre, soyez gentil, allez voir ce qu'il fait ce bonhomme. Et c'est comme ça, il a dû revenir en disant, bah oui, c'est pas mal.
Et c'est comme ça que vous avez été embarqué dans l'aventure.
Oui, oui, oui.
Alors, elle a un relief peu commun, votre filmographie, Michael Lonsdale, puisque vous avez tourné dans les films de Marguerite Duras, mais on vous retrouve aussi aux côtés de James Bond dans Moonraker. J'imagine que le plaisir de l'acteur n'est pas le même dans Indian Song et dans Moonraker.
Oh, mais les Durasiens m'ont dit, comment tu fais du James Bond, t'as pas honte? J'ai dit, je vous enquiquine. Je fais ce que je veux. Moi, je suis anglais. Les Anglais ont la facilité et le plaisir infini de, comme Laurence Olivier, qui est un modèle absolu pour moi, qui a joué tous les Shakespeare. Et puis, de temps en temps, ils ont une petite comédie pour changer les idées.
Comme Michel Bouquet, vous n'avez jamais cessé de jouer. Et il y a 4 ans est arrivé le film que peut-être vous attendiez tant vous incarnez le personnage de Frère Luc. C'est le film, bien sûr, de Xavier Beauvois, Des Hommes et des Dieux, pour lequel vous avez retrouvé le Maroc de votre enfance. Puisque ce film qui retrace l'histoire des moines de Tibérie n'a pas été tourné en Algérie. Alors, il paraît que sur ce tournage, Michael Lonsdale, les acteurs étaient fédérés par le chant. Vous chantiez sans cesse ensemble.
Ah, les comédiens ont été dépassés par quelque chose d'imprévu. C'est que... Vous savez, on s'amuse beaucoup dans ce métier, on rigole, on fait des blagues, il y a une atmosphère comme ça. Mais dès que ces comédiens ont revêtu leur costume de moine, je ne sais pas, ils étaient pris par quelque chose qui les dépassait. Non, ils ne faisaient plus les imbéciles. Et dès qu'ils étaient ensemble, ils répétaient les chants. Et ils ont travaillé à ces chants, hein, parce qu'il n'y a que Lambert qui était vraiment un chanteur.
Ouais.
Et une fois habillés, il y avait quelque chose de respectueux et de grave en eux. C'était très beau.
Ce film vous a valu un César, et je me souviens de ce moment charmant, Michael Lonsdale, vous êtes exclamé sur scène « Enfin te voilà, petit coquin
oui. !»
Vous n'aviez jamais reçu de prix au cinéma?
Non, j'avais été nominé, comme on dit, pour le film de Sauté, oui, Nelly et Monsieur Arnaud. J'avais été nominé aussi pour La question humaine de Klotz, avec Amalric, mais j'avais pas eu le prix.
Mais oui. Est-ce que ce rôle magnifique de Frère Luc ne vous a tout de même pas pris en otage pour le restant de votre carrière?
Mais non, pas du tout. Vous savez, c'est quoi notre métier? Il faut bien se le dire, nous jouons. On n'est pas prisonnier d'un rôle. C'est comme un violoniste, un soir, il va jouer Paganini, puis ensuite Schubert, ensuite Mozart, ensuite Bach.
Sauf que la spiritualité est au cœur de votre vie. Et on continue de l'évoquer, on retrouve tout de suite Michael Lonsdale.
Europe Matin, la nouvelle référence.
C'est une information Europe 1, révélation dès le début de ce journal.
Europe Matin, présenté par Thomas Soto, des témoignages forts.
Vous êtes mis sur la place publique, la présomption d'innocence n'existe plus.
Des points de vue qui font la différence.
Mais il n'y a pas un plaisir des magistrats à mettre les politiques qui passent dans leur cabinet en examen? C'est pas devenu un sport national?
6h-9h,
du lundi au vendredi,
Thomas Soto.
Europe Matin,
la nouvelle référence.
Pam padam, pam padam.
Il était une fois... La livraison en chronopost, offerte.
Ce ne sont pas des histoires. C'est l'une des offres de Noël d'Darty. Les 13 et 14 décembre, des 20 euros d'achat sur darty.com, la livraison par chronopost est offerte.
Voir conditions sur darty.com.
Le foie gras du Sud-Ouest, avec Cyril Lignac.
Alors Cyril, ce foie gras du Sud-Ouest, c'est pas toi qui l'as préparé pour une fois?
Ah, tu sais, quand je rentre dans le Sud-Ouest, c'est mes amis qui font la cuisine. Et ça fait plaisir de se retrouver autour d'un foie gras. Parce que tu vas voir, les saveurs du foie gras du Sud-Ouest, c'est inimitable. Et en plus, ça se partage.
IGP Canard à foie gras du Sud-Ouest, c'est écrit, c'est garanti. Campagne réalisée avec le soutien financier de l'Union Européenne et de la région Midi-Pyrénées.
Ben et Arnaud, vendeurs chez Decathlon. Madame, vous voyez comme l'amorti des chaussures Gel Run Miles d'ASICS est efficace?
Ben, tu n'as pas besoin de sauter pour expliquer à madame que le gel permet un bon amorti.
Il faut savoir donner de sa personne.
C'est Noël chez Decathlon. Jusqu'au 24 décembre, les chaussures de running Gel Run Miles, hommes ou femmes d'ASICS, sont à seulement 59,95€ au lieu de 89,95€, soit 30% de remise. Decathlon, à fond la forme. Voir conditions en magasin et sur decathlon.fr.
Tous les dimanches, 14h-15h.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet sur Europe 1.
Raquel Dansdal, il paraît que, assez régulièrement, vous séjournez dans des monastères. Est-ce qu'il vous arrive d'imaginer que la fin de votre vie pourrait se dérouler parmi les moines sans porter la robe de bure, mais simplement comme un homme qui aurait besoin de silence et de paix après une vie bien remplie?
Non, non, je ne pense pas du tout à tout ça. Moi, tant que ça fonctionne, je ne pense pas à l'avenir. Non, non. J'accepte ce qui se présente et puis voilà. En temps voulu, on verra.
Mais vous aimez vivre au cœur du monde, pas d'isolement.
Oui, j'aime les êtres humains beaucoup. Je crois que seul dans une cellule avec Dieu... Je ne dis pas que je n'aime pas Dieu, mais... Non, j'ai besoin de l'incarnation de Dieu. Et les êtres humains sont des créations de Dieu.
Alors, comme vous avez le goût du mystère et de ce qui n'est pas toujours formulé, vous allez me pardonner cette question que vous avez peut-être trouvée indiscrète, mais on ignore si vous avez fondé une famille. Est-ce que vous avez des enfants?
Non, 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 je suis célibataire endurci.
Endurci.
Comment... Oui, oui,
et,
oui.
Et la transmission par cette chaîne charnelle de la descendance ne vous a pas manqué?
Non, pas du tout. Je ne crois pas que j'aurais été un bon père, parce que j'ai remarqué que quand les enfants commencent à piailler et à crier, je me sens très mal, je ne supporte pas.
Alors, c'est une bonne raison.
Non, ça, j'y ai pensé, mais je ne crois pas qu'avec le métier que je faisais, être un bon père, quoi, parce que tout le temps en tournage, en tournée, pas là. Non, il y a beaucoup de comédiens qui ont une vie de famille très bien, mais non, ce n'était pas mon chemin. Non.
Alors, on l'a compris depuis le début de cette conversation, Michael Lonsdale, l'homme de foi que vous êtes, consacre beaucoup de son temps et de son talent à partager, j'ai envie de dire par le verbe incarner du théâtre, la bonne parole. Et personne ne pouvait être plus légitime que vous pour mettre en scène au Théâtre du Petit Hébertot à Paris, donc un spectacle autour des confessions de Sœur Emmanuelle. Et on va être très surpris de la liberté de ton de Sœur Emmanuelle qu'on va découvrir, en fait, dans ce solo magnifique interprété par Françoise Turiès.
Sœur Emmanuelle, c'est un pistolet spirituel. C'est Annie, get your gun.
J'aime la formule.
Dans la foi. Et oui, elle a acquis une espèce de liberté de parole et de comportement qui fait qu'il fallait qu'elle soit reçue par tout le monde. Quand elle a commencé à chercher l'argent pour ce bidonville terrifiant où les enfants bouffaient des tomates pourries dans les ordures, enfin des trucs, elle a été tellement révoltée qu'elle a dit maintenant il faut faire quelque chose. Elle est partie pendant 15 ans à sonner à toutes les portes, partout, l'UNESCO, les Nations Unies, les ambassades, les mouvements charismatiques, tout, conférences, tout ça. Elle a rapporté une fortune. Les gens ont été généreux. Elle a fondé le dispensaire, elle a fondé l'école, elle a fondé la maison où les femmes apprenaient à broder, à travailler pour gagner un peu leur vie. Et elle a éradiqué les épidémies. Les gosses mouraient du tétanos. Enfin, c'était horrible. Non, elle a fait œuvre, mais fabuleuse, enfin, de sauver des milliers de gens.
Alors, elle ose parler de ses doutes dans ce texte,
n'est-ce
pas?
Oh, bah,
et il paraît qu'il n'y a pas une phrase qui ne soit d'elle.
Ah oui, tout ce qu'elle dit est formidable.
Et elle a beaucoup d'humour.
Beaucoup d'humour. Alors, puis elle tutoie tout le monde. Et alors, il y a la jolie histoire au restaurant avec Robert Hossein, qui l'emmenait dans les grands restaurants, elle aimait bien. Mais elle avait une idée derrière la tête. Bon, au plein milieu du repas, elle regarde un peu autour, puis elle dit donc, ils sont un peu friqués, les gens, là, non? Ah bah oui, c'est pas des pauvres, oui. Bon, tu crois que je peux aller leur prendre un peu d'argent? Ah bah fais ce que tu veux, écoute. Elle se lève, elle va à la table la plus proche. Pardon de vous déranger, je suis sœur Emmanuelle. Oh, mais je vous en prie, ma sœur, asseyez-vous. Elle s'assoit, puis d'entrée, elle dit, voilà, je viens pour vous piquer du fric.
Elle et tout pas, le monde, bien sûr, donnait.
Vous savez, auriez-vous la gentillesse de faire quelque chose pour mes œuvres? Elle est partie avec plus de 2000 balles.
De l'époque.
De l'époque,
oui.
De maintenant, d'euros.
Oui.
À toutes les tables, elle est allée. et chacun a son petit chèque. C'est ça, Sœur Emmanuelle, rien ne l'arrêtait.
Alors ce spectacle que vous avez mis en scène, il a d'abord été joué dans la crypte de Saint-Sulpice, n'est-ce pas ?
Oui, on a commencé là, ensuite on a voyagé en tournée, ensuite on est passé au Théâtre Michel, ensuite on est revenu à la crypte, et maintenant nous sommes au Petit Héberto.
Au Petit Héberto. La question que pose la vie de Sœur Emmanuelle, Michael Onsdahl, c'est celle de l'engagement en renonçant à tout ce qui nous protège. Jusqu'où sommes-nous prêts à nous dénuder, à nous dépouiller ? Vous, jusqu'où êtes-vous prêts ? Auriez-vous, seriez-vous prêt à le faire ?
Ah ben non, moi je suis plus modeste que ça. Non, j'essaie d'évangéliser à ma mesure, et donc ça peut être par l'art et par le théâtre ou le cinéma. Voilà, c'est là que je le fais, ou par la musique. Mais comme elle dit dans la pièce, elle cite le grand poète iranien, « Prends ton cœur, ouvre-le en deux et tu verras Dieu ». C'est une question de cœur, c'est une question de générosité. Quand il y a eu ce film avec Pierre Freinet, juste après la guerre de Monsieur Vincent, mais ça a fait un tabac pas croyable. Pendant des mois, les mairies ont reçu des colis de vêtements, de nourriture et tout, et tout. Puis ça recommençait avec l'abbé Pierre en 54. Les gens sont généreux, mais il faut qu'il y ait quelque chose de terrible pour les secouer, quoi.
On trouve tout de suite Michael Onsdahl.
Carrefour réveille la magie de Noël.
Hey, maman, tu fais quoi avec tous ces jouets ? Tu te prends pour le Père Noël ?
Non, mais jusqu'à ce soir, chez Carrefour, t'as 15 euros en bon d'achat par tranche de 75 euros d'achat sur tous les jouets et les vélos.
15 euros en bon d'achat ?
Je me dépêche avant de me faire doubler par le Père Noël. Et en plus, ça tombe bien, Carrefour est ouvert aujourd'hui.
Carrefour, les prix bas, la confiance en plus.
Or, accessoires cycle, livres, logiciels, jeux vidéo, consoles de jeux et accessoires. Bon d'achat valable du 15 au 28 décembre sur tous les magasins hors carburant et services. Modalité, magasin participant est ouvert aujourd'hui sur carrefour.fr.
Mesdames, messieurs, ici le superviseur de votre train IDTGV. Départ immédiat de l'été 2015. Prenez garde à l'ouverture des ventes. Pour la première fois en décembre, l'été 2015 va partir. Attention au départ.
En ce moment, ouverture exceptionnelle des ventes IDTGV pour vos vacances de printemps et même d'été. Ne ratez pas le départ. Réservez dès maintenant et profitez d'un billet pour vos prochaines vacances de printemps et d'été à partir de 19 euros pour 30 destinations en France. Voir conditions de l'offre sur idtgv.com ou sur l'appli mobile IDTGV.
Avec Nat Geo Wild, la nature va prendre plus de place dans votre vie. Retrouvez Nat Geo Wild, la chaîne télé des plus beaux documentaires animaliers, sur CanalSat, Numéricable, Orange et Free.
Vous écoutez L'hiver de Vivaldi. Week-end, préparez vos prochains trajets avec Citroën. Pour un diagnostic hiver en 10 points de contrôle effectué gratuitement, Citroën vous offre une semaine de location de matériel de ski. Alors pourquoi se priver de l'expertise Citroën ?
Citroën, créative technologie.
Bilan réservé aux particuliers jusqu'au 31 décembre. Conditions des offres et règlements sur citroën.fr.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Isabelle Morizet sur Europe 1.
Quand vous ne travaillez pas, il paraît que vous installez dans votre appartement chevalets et palettes de couleurs, flacons d'huile et tubes de pigments pour peindre ce que vous appelez vos paradis imaginaires. Qu'est-ce que vous dessinez dans vos paradis imaginaires ?
Oh ben j'ai été très impressionné au Maroc par la faune, par les plantes et par les couleurs des tapis marocains, des femmes de berbères. Non, j'ai pas de chevalet parce qu'il faut rester debout. Non, je m'allonge plutôt. Des fois, je peins à plat ventre.
C'est pas possible. À oui. Plat ventre dans l'appartement.
Les petits formats. Mais non, sinon je m'assois. Mais voilà, donc oui, j'ai une passion pour ça parce que j'aime la matière et la couleur. Les tableaux, pour moi, les grands peintres, c'est ceux qui me réjouissent par le... C'est Matisse, c'est Chagall, c'est les gens. Ouais. J'adore les coloristes comme ça.
Et je crois savoir que vos personnages ont toujours les bras levés vers le ciel.
Oui, souvent. Oui, c'est vrai. Mais je ne le fais pas exprès parce que c'est pour moi comme une danse. Oui.
Alors ces toiles, vous les exposez en galerie et vous avez une cote qui est très très honorable. J'ai appris que, en fait, pour un grand tableau, cette cote était autour de 6 000 euros.
Ah, les plus, oui, les plus grands, oui, ils sont partis rapidement. J'étais très ému et un peu triste de voir partir les tableaux.
Mais est-ce que vous exposez en ce moment ?
Non, parce que la galerie où j'exposais a fermé. C'était une librairie avec un sous-sol qui me convenait. Mais maintenant, il y a des possibilités peut-être de repartir dans d'autres maisons.
Oui.
Oui.
Alors, puisque vous peignez, vous devez être très sensible au rôle de la lumière au cinéma.
Oui, comment ? Et bien sûr, la belle image, oui, j'aime ça. Oui, ça, c'est un grand apport.
Mais vous ne trouvez pas qu'on la traite différemment, maintenant, la lumière ?
Avant, c'était très soigné, il y avait beaucoup d'ampoules, beaucoup de projecteurs. Maintenant, avec 3 ou 4 projecteurs, oui, c'est beaucoup moins soigné, enfin, beaucoup moins travaillé. Maintenant, c'est la vitesse.
Puisque vous aimez répéter que les artistes sont les témoins de l'invisible, en fait, donc, pour vous, l'art, c'est également un chemin qui va vers Dieu.
Oui, Dieu a créé le monde et il a créé ses chers enfants, les êtres humains. Donc, nous, il faut qu'on imite Dieu. Et
vous ne doutez jamais.
Eh non, pourquoi ? Il n'y a pas de raison de douter. Et donc, il faut nous être créateurs aussi pour rendre la balle, voilà.
Alors, dans votre carrière, Michael Lonsdale, vous avez incarné les personnages les plus habités, on l'a dit tout à l'heure, des moines, des prêtres, vous avez même interprété un pape. Quel rôle aujourd'hui pourrait vous faire vibrer ? Un rôle à l'opposé de ce que vous êtes ? Un athée farouche, par exemple ?
Non, je ne vais pas m'embêter à montrer ce qui n'est pas intéressant. L'athée, il faut prier pour lui, mais...
Mais qu'il faut ramener dans le chemin lumineux ?
Bien sûr, mais en l'accueillant et en le considérant comme un être humain tout à fait respectable, c'est son droit de ne pas croire. Sœur Emmanuelle, on lui a dit souvent dans les écoles, ne parle jamais de Jésus, mais consente que ta foi t'habite. Rayonne la foi, mais sans mentionner l'auteur de ton rayonnement. Parce qu'elle travaillait avec les filles des gosses juives, arabes et tout ça. Donc il y a une façon d'être qui suffit. Et puis surtout pas de dire du mal des gens. Des fois, dans les réunions, quand on commence à déblatérer sur les gens, alors au bout de 5 minutes, je leur dis, écoutez, arrêtez, c'est pas bon ce que vous faites là. Vous mixez du poison, c'est pas bon.
Des ondes négatives.
Oui. Tâchez de parler des gens avec respect et plaignez-les, mais ne commencez pas à vous marrer des travers des gens. Oui, il faut faire attention à ça, parce qu'on passe des soirées comme ça à déblatérer sur les gens. Oh là là, moi je m'en vais toujours.
Bon, c'était chargé d'ondes positives, ce voyage d'une heure en votre compagnie, Michael Lonsdale. Le spectacle que vous avez mis en scène autour des confessions de Sœur Emmanuelle est joué jusqu'au 28 février au Théâtre du Petit Héberteau à Paris. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, Michael Lonsdale.
Grosse bise à tout le monde.
Merci beaucoup Isabelle Morizet. Rendez-vous la semaine prochaine sur Europe 1.